懂不安。
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous recevons par téléphone Tony qui nous appellera de Brest pour l'association Écoumène. Alors on attaque, vu que Jean-Marc est là, par les chroniques d'actualité de Jean-Marc qui commence par nous parler d'Alzheimer.
Oui, on a beaucoup parlé d'Alzheimer, on a des pièges jaunes et des tas de choses, et en ce moment, c'est surtout Alzheimer et politique. Alors, on a des grands prédécesseurs, et on savait qu'il y avait des règles en politique, et notamment qu'en politique, la mémoire était relative, lacunaire et très sélective. On a eu un grand maître, le maître Chirac, qui avait la mémoire défaillante les jours de procès, et qui avait donné une grande illustration de la pratique de la mémoire politique. Il avait placé la barre très très haut. Et pourtant, on a réussi à trouver mieux. Alzheimer, branche politique, vient de faire une nouvelle victime, Manuel Valls, qui est contre le 49-3 après l'avoir utilisé et qui dit même qu'on l'a obligé à l'utiliser. Pauvre Biquet. Le concours « Je prends les électeurs pour des cons » reste ouvert. Peut-être Fillon va-t-il relever le gant à cette occasion, se rappeler pourquoi son cabinet conseil a touché autant d'argent en provenance du Kazakhstan.
Ah, c'est des maladies graves quand même, ça touche tout le monde, hein. Surtout à droite, c'est bizarre. Tu continues avec l'actualité, tu voulais nous parler de minorité ?
Non.
Non, pas du tout ?
De mixité ! Alors, toujours, on a évoqué Manuel Valls et nos chers amis socialistes n'en finissent pas de nous étonner. Alors là, c'est une petite histoire qui commence au National, qui continue à Paris et qui finit dans le 18e arrondissement. Alors, nos amis socialistes ont inventé la nouvelle mixité scolaire. Première étape, deux ténors du Parti Socialiste, Madame El Khomri et Madame Vallaud-Belkacem, deux ministres visionnaires, ont ouvert la voie à des choses nouvelles. Elles ont découvert que l'école française manquait de mixité. Il fallait bien être socialiste et ministre pour s'en rendre compte. Et elles ont décidé d'expérimenter un nouveau dispositif. Sauf qu'entre-temps, elles sont devenues autre chose. C'est passé à d'autres mains, par les arcanes du ministère, par les arcanes des rectorats. Et l'expérience a été faite à 2-3 endroits en province, mais surtout à Paris. Et à Paris, ça devait commencer par une constatation fulgurante. Les collèges de la périphérie parisienne ont plus de difficultés sociales que ceux du centre. Les socialistes sont des chercheurs très très fins, ils ont découvert ça. Il a fallu 3 ans de recherche au rectorat pour découvrir cela. Alors évidemment, ils ont cherché des solutions. Et comme les socialistes sont toujours bons pour les solutions, ils ont trouvé un programme. Ça s'appelle la mixité. Et cette mixité, ils ont décidé de la faire bien. Alors au départ, le programme à Paris touche 40 établissements. 40 établissements, c'était tellement bien foutu comme projet qu'un an et demi après, il en reste moins de 10 qui sont dans la balance. Et dans les 10, pratiquement tous dans le 18e. Pourquoi dans le 18e ? Parce que c'est l'équipe de bras cassés la plus performante de toutes les mairies de Paris. Donc là, où quand quelque chose ne marche pas dans Paris, essayez-le dans le 18e, ils vont l'accepter. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette mixité ? Alors, c'est de mettre des collèges ensemble, dans une même zone de recrutement, pour mettre la mixité en place. Jusque-là, c'est une très bonne idée. Sauf que là où ça commence à ne plus aller, c'est que le rectorat et la mairie socialiste ont réussi à faire un brassage très intéressant. Brassage, c'est je mets une ZEP plus une ZEP. Question, une ZEP plus une ZEP égale une ZEP. Alors, on peut faire l'équation autrement. Une petite ZEP plus une petite ZEP égale une grosse ZEP. Donc, ça va être très performant, ça va beaucoup mieux marcher et ce sera très mixte. Et alors, après ça, comme ce sont des socialistes, on discute avec eux et on leur dit, et parce que les socialistes, ça concerte beaucoup, ça discute beaucoup. Alors, on leur dit, mais ZEP plus ZEP égale ZEP. Non, vous n'avez rien compris, c'est de la mixité. Mais alors, pourquoi le collège qui est au-dessus, qui est beaucoup moins défavorisé et qui est même très favorisé, on ne peut pas le mettre dans le projet ? Là, ce serait mixte. Et réponse socialiste, ce n'est pas socialement acceptable. C'est une citation, hein. Là je n'invente pas, ils ont dit « ce n'est pas socialement acceptable ». Et après ça, deuxième argument, qu'on avance quand même, à force de faire ça, vous savez qu'il va y avoir une panique et que le privé va s'engraisser sur le dos de l'éducation publique. Réponse avisée de nos cadors politiques, « ce n'est pas possible, le privé à Paris est saturé ». Fin de la discussion sur la mixité. Donc voilà, c'est à des petits détails comme ça que l'on comprend l'état du Parti Socialiste.
Mais n'oubliez pas, de voter, hein, quand même. Faut pas se dégoûter de tout. Il y a encore des gens qui y croient. Voilà. Alors justement, en parlant de politique, il y a quelque chose qui ne peut pas nous dégoûter, c'est de voir ailleurs et de voir le Cador que tu viens de dire, c'est ça, de toute la politique internationale, Erdogan en Turquie.
Là, ce serait plutôt le Tchador que le Cador. Alors déjà, une petite définition qui est de plus en plus adaptée à deux personnages dans le monde qui sont Erdogan et son nouveau copain, Vladimir Poutine. C'est la démocrature, une très bonne expression, un néologisme qui décrit les dictateurs élus et réélus démocratiquement ou presque. C'est donc un phénomène assez inquiétant et qu'on pourrait étendre jusqu'aux États-Unis bientôt, c'est-à-dire des gens qui sont réellement élus démocratiquement, mais qui ont des pratiques et des pensées de dictateurs. Donc ça pose des problèmes. Et Erdogan en est un parfait exemple, et aussi un parfait exemple de politique changeante. Alors celui qu'on appelle le Pacha en Turquie, et c'est vrai qu'il a de plus en plus ses caractéristiques, a progressivement transformé la Turquie en démocrature, et il ne cesse d'augmenter ses pouvoirs. Ça ne lui suffit encore pas, il cherche aujourd'hui à réunir le congrès turc pour obtenir un renforcement de ses pouvoirs, encore un, et la possibilité d'être réélu éternellement à la tête de la Turquie. Alors, ça pourrait prêter à sourire, sauf que déjà pour les Turcs, c'est pas très amusant, puisque la Turquie est quand même enfoncée dans deux guerres, une guerre interne, la guerre civile que Erdogan a lui-même rallumée contre les Kurdes, la guerre en Syrie, qui est une guerre aussi contre les Kurdes syriens, largement pour Erdogan. La Turquie est en pleine crise économique, elle continue d'être rongée par une corruption galopante, et elle n'a quand même un petit problème, gérer quelques centaines de milliers de réfugiés sur son territoire. Et Erdogan n'a rien de plus pressé que de vouloir augmenter son pouvoir et continuer la répression suite au coup d'État de l'été dernier. Le Pacha a néanmoins quelques difficultés et a tendance à souvent retourner sa veste ou sa burqa, comme vous préférez, d'intégriste ces dernières années. Et il se croit très habile, mais à force d'habileté, on peut penser qu'il risque de se prendre la sublime porte dans la gueule. Alors, florilège de ces changements. Erdogan veut faire entrer son pays dans l'Union européenne. C'est une constante depuis longtemps, quand il était Premier ministre, depuis qu'il est président, ça continue. Mais en même temps, il s'essuie les pieds sur les Européens, grâce à la crise de, justement migratoire venue de Syrie. Ça lui donne une position de force. Deuxième chose, pour rentrer dans l'Union européenne, il faudrait mettre de l'eau dans son vin et surtout dans ses droits de l'homme. Et la Turquie, au contraire, s'enfonce dans les violations de plus en plus fréquentes des droits de l'homme, ce qui ne va pas très bien avec cette entrée dans l'Union européenne. Toujours pour l'Union européenne, Erdogan est de plus en plus hystérique sur la question du génocide arménien. Il renforce les lois qui négationnistes et il multiplie en plus les relations et les phrases de sympathie pour feu Adolf Hitler. Donc tout cela ne cadre pas très bien avec sa volonté d'intégrer l'Union européenne. Alors on peut se demander si aussi c'est pas un pas de deux qui permet de cacher sa politique intérieure. Qui permet de cacher sa politique intérieure, voire les plus négatifs qui pourraient penser qu'il serait en train de préparer un nouveau génocide, celui des Kurdes. Deuxième exemple, c'est la pression avec la Russie. Erdogan s'est amusé à faire monter la pression avec la Russie, il a même fait descendre volontairement un avion russe il y a un an et demi. Et maintenant, après ce passage qui a failli mener la Turquie et la Russie à la guerre, Erdogan et Poutine sont cul et chemise. Cul et chemise, ce qui est assez paradoxal dans l'opinion publique turque, puisque la Russie est toujours présentée comme l'ennemi héréditaire en Turquie, encore aujourd'hui, et ça ne passe pas forcément très bien dans toutes les couches de la population. Deuxième paradoxe de cette situation avec la Russie, c'est que la Turquie fait partie de l'OTAN et donc normalement suit plutôt la politique américaine. Et là, la tension est devenue tellement forte avec les États-Unis qu'Obama a retiré les bombes nucléaires qui étaient stockées sur les bases turques de l'OTAN en Turquie. C'est dire que la confiance règne. Alors, troisième exemple de cette politique et de ces volte-face permanentes, Erdogan, après avoir mené une politique très relative d'ouverture vis-à-vis des Kurdes, aujourd'hui leur met tout sur le dos et donc bombarde avec tout va les Kurdes en Turquie, mais aussi les Kurdes en Syrie, sous prétexte d'aller faire la guerre à Daesh. Il balance surtout des bombes sur les Kurdes. Alors, dernier exemple et non des moindres, et je finirai là-dessus, avec sa politique syrienne, puisqu'en l'espace de 6 ans, Erdogan s'est présenté comme le rassembleur de l'opposition sunnite au chiite Assad, avec le soutien de nombreux groupes islamistes, et en laissant passer tous les pseudo djihadistes vers la Syrie. Et aujourd'hui, évidemment, ça lui retombe sur le coin de la figure, parce que les choses ont changé. Et avec l'alliance russe, ça pose un problème. Donc il se met à ne plus soutenir certains groupes et à bombarder des Kurdes syriens à défaut d'autre chose. Alors combien de temps l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, la Russie, les monarchies pétrolières et surtout la population turque vont-ils laisser sévir ce bouffon sanguinaire et intégriste, parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension toujours dans sa politique, lui laisser les coups des franges par intérêt, par lâcheté, par bêtise, nul ne le sait. Mais en attendant, les prisons turques débordent comme jamais, les morts se multiplient, les libertés semblent avoir déserté durablement l'Asie mineure.
Un pays qui était, pour la partie la plus européenne, parfaitement européenne, on va dire. Encore une fois, alors on termine l'actualité avec Alex, qui nous parle d'insalubrité et du droit au logement.
Et du droit au logement, tout à fait. Et ben après toutes ces tristes réalités dont Jean-Marc nous a parlé, moi j'ai une bonne nouvelle, hein. Aujourd'hui à Paris...
D'ailleurs, il faut dire que j'en ai ras le kurde.
Aujourd'hui à Paris, l'hôpital ne se moque plus de la charité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait il y a des sans-logis qui ont occupé l'Hôtel Dieu. Il y a 50 personnes maintenant qui vont pouvoir être mises à l'abri dans une des ailes de l'Hôtel Dieu qui est libre, qui est vide, et qui vont pouvoir justement éviter de se retrouver à la rue. Et alors d'où nous vient cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est qu'en fait il y a tellement de restructurations actuellement dans le monde de la santé en Ile-de-France qu'on se retrouve avec la bagatelle de 5 millions de mètres carrés vacants dans les services publics et en particulier dans les hôpitaux en Ile-de-France. Et alors blague à part, parce que pour sortir de ça, parler de choses...
C'est normal
puisqu'on
ferme des lits pour pas embaucher d'infirmière.
Ouais. C'est que quand même, droit au logement, et je rappelle des choses que tout le monde connaît, mais ça fait du bien de les rappeler, on le sait, mais la rue tue. C'est-à-dire que la moyenne d'âge au moment du décès pour les personnes qui vivent dans la rue, c'est 49 ans. L'espérance de vie pour les gens qui se retrouvent à la rue, c'est 15 ans, ni plus.
Mais si on va dire que c'est bon pour équilibrer les retraites.
Certes. Effectivement, ça fera un petit peu de minimum vieillesse à payer en moins. Et en attendant qu'on construise donc les 75 000 logements par an qui manquent en Ile-de-France et les 300 000 logements par an qui manquent en France en général, eh ben on peut aller manifester avec le DAL à l'Hôtel de Ville demain à 15h. Donc, d'un hôtel à l'autre, de l'Hôtel Dieu à l'Hôtel de Ville. Voilà.
Alors, si vous pensez que tout va mal, je pense que beaucoup de gens, et Brigitte Fontaine et Areski, vous expliqueront que c'est normal.
Part du tronc, ouais. Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tient.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, qui ce soir est présentée par des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous avons au téléphone Tony qui nous appelle de Brest. Bonjour Tony.
Bonjour.
Et je t'entends assez mal, on peut monter le micro. Et Tony, tu nous appelles pour l'association Ecoumen, qui est une association autour d'un immeuble, et pas n'importe quel immeuble.
Oui, alors c'est même plus qu'une association, parce que c'est tout un projet. Hein. C'est un projet d'habitat, ce qu'on appelle aujourd'hui les habitats groupés ou les habitats participatifs. C'est des termes qui sont un peu à la mode comme ça. Mais c'est vrai que c'est un projet d'habitat qui s'est composé avec comme ça des groupes de personnes qui avaient envie de. Enfin, qui voyaient qu'il y avait des problèmes au niveau de l'immobilier, du logement, qui avaient plein de questions autour de tout ça, et puis qui essayaient de trouver quelque chose qui soit un petit peu en accord avec des philosophies différentes. Et du coup, voilà, c'était d'imaginer comment un projet d'habitat groupé qui puisse être à la fois écologique, économique, participatif, enfin collectif en tout cas, et puis aussi à l'encontre de la spéculation immobilière et de trouver comme ça un système qui puisse se bloquer un peu ce système.
Donc ça fait quatre points importants à traiter. On peut peut-être partir un peu dans le concret d'abord. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'immeuble, vu que c'est un lieu de vie, il y a plusieurs réalisations qui sortent de l'ordinaire.
Oui, alors déjà, comme dans l'idée d'un projet comme ça, collectif, participatif, économique, tout ça, l'idée déjà, c'est de faire un projet urbain. Donc c'est, l'immeuble est à Brest. Là, souvent, ces projets comme ça sont à la campagne. Mais nous, on a choisi de le faire à Brest parce que tous les participants, tous les habitants, les personnes travaillant en ville, on disait, trouver un système où on puisse utiliser la voiture au minimum, tout à pied ou en transport en commun au maximum. Sauf que en ville, on a plutôt de l'espace en hauteur plutôt qu'en largeur. Donc surtout, du coup, ça a pris la forme d'un immeuble. Un immeuble qu'on a construit en bois, qu'on a pu faire avec donc des matériaux les plus simples possibles, et surtout qu'on a réussi à faire avec nos moyens du bord. Il n'y a personne qui est vraiment riche dans le projet, et on a quand même réussi à monter ce projet-là. Donc il y a 6 logements, 4 logements plus importants où habitent 4 familles, et 2 logements plus petits où habitent 2 personnes célibataires. Et donc c'est un immeuble passif. Donc ça, c'est tout l'aspect, un des aspects plus importants dans la partie économique, c'est que là on est arrivé au mois de janvier et les chauffages n'ont pas eu besoin de s'allumer encore. Un autre aspect très important par rapport à tout ça, c'est que...
C'est dégueulasse, vous voulez ruiner Areva ?
Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est l'idée de... je crois qu'on a, pour tout l'immeuble, donc avec les 6 familles, enfin les 6 foyers, on a une consommation d'électricité qui est de 250 euros pour 2 mois, quoi, à peu près. Et pour la consommation de gaz aussi, c'est notre fournisseur, qui n'est pas les fournisseurs habituels, mais n'arrive pas à comprendre qu'on consomme pas assez. Pourtant, la plupart des cuisines sont gaz et pas électriques. Mais on arrive à des niveaux de consommation qui sont très très faibles. Et en même temps, on a réussi à faire ça avec un coût de construction qui est relativement faible aussi. Donc on est assez content de ce résultat.
Donc tu parles de cuisine individuelle, pas forcément de cuisine collective, donc vous avez quand même pas tout en commun.
Non, justement, dans la partie collective des choses, c'est plus dans un fonctionnement que dans une manière d'habiter. Bon, il y avait beaucoup de fantasmes qui tournaient autour de notre projet, en disant, est-ce qu'il y aura une cuisine collective, tout ça, les enfants qui vont habiter dans un étage, les adultes dans un autre. Non, c'est vrai que dès le départ, on a discuté ensemble de ce qu'on voulait partager, de ce qu'on n'avait pas envie de partager. Et il était assez clair pour chacun, chacune, que on voulait quand même avoir chacun notre chez-soi et d'avoir chacun à son appartement, un peu comme tout le monde, en fait. Par contre, ce qu'on partage, c'est plutôt certains modes de vie. Les paliers de notre immeuble qui ont été quand même pensés plutôt comme des jardins d'intérieur plutôt que comme juste des lieux de passage. Et après, ce qu'on partage aussi, ça va être plutôt ce qu'on n'a pas trop envie d'avoir chez soi d'une certaine manière, quoi. Les parties buanderie, espace de rangement, l'espace extérieur, l'espace vert en extérieur. Après, par contre, il y a autre chose qu'on a voulu partager, et ça pas que avec les habitants d'immeubles. Parce que là, il n'est pas tout à fait terminé, on construit un local associatif qui va nous permettre de réaliser un peu tout ce qu'on veut. C'est un espace de 50 mètres carrés à peu près où on essaie que tout puisse y être possible, mais sans trop savoir exactement ce qu'on va y faire. Mais on imagine qu'il y aura des repas, des fêtes, évidemment, ça c'est des choses qui s'entendent assez facilement. Mais on se dit aussi des ateliers de toutes sortes, et surtout qui ne soient pas réservés que aux habitants de l'immeuble, qui puissent être aussi ouverts sur le quartier. Ça peut accueillir des voisins qui voudraient, pareil aussi, fêter un anniversaire, mais qui ont des appartements trop petits, et qu'on puisse les accueillir. Et puis aussi d'autres associations, d'autres groupes de personnes, des collectifs qui ont besoin d'un espace pour se réunir, pour partager des pratiques, et que ça soit donc possible grâce à ce local.
Donc c'est un projet de plusieurs familles, en fait, et donc vous avez mis ça sur combien d'années pour arriver à monter un projet pareil ?
Alors, de plusieurs familles, en fait, surtout de plusieurs individus au départ, mais dont certains s'étaient déjà constitués un peu en famille. Donc c'est vrai qu'il y a des familles qui ont participé, et puis des personnes célibataires qui étaient des amis ou dans un réseau comme ça sur Brest. Il y a beaucoup de personnes qui se connaissaient déjà, qui d'un tissu associatif brestois qui est assez actif. Et ça a mis pas mal de temps. C'est vrai que nos premières réunions, qui consistaient vraiment à savoir ce qu'on voulait partager, ce qu'on n'avait pas envie de partager, et ce qu'on pouvait imaginer les uns les autres, ça a commencé en 2007. 2006-2007, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il a fallu déjà un certain temps déjà pour réussir à imaginer ensemble, trouver les points communs pour chacun. Ensuite, il y a eu tout un temps qui a été assez long quand même, à essayer de trouver le terrain, de pouvoir l'acheter. Et puis une fois qu'il a été acheté, de dessiner avec un architecte un projet qui puisse rentrer dans avec l'argent qu'on mettait sur la table. Et au final, et puis après, après il y a eu le temps de la construction, qui ceci dit a été assez rapide. Une fois que les travaux ont commencé, ça c'est assez rapide. Mais c'est vrai que tout le temps de réflexion au départ à lui était très long. Et aussi dans la constitution de statut qui était assez original. Et là, c'est dans l'aspect anti-spéculatif, parce qu'il nous fallait trouver un système qui puisse permettre à ce que personne ne puisse s'enrichir avec ce projet.
Alors, on en reparlera après une petite pause musicale, et la pause musicale s'impose, parce que là, tu viens de nous décrire une maison où les gens ont l'air d'être heureux. Alors, on va écouter San Francisco, Maxime Le Forestier.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. Où êtes-vous, Lise des Lucs, Sylvia? Attendez-moi.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous retrouvons au téléphone Tony de l'association et du projet Écoumène, qui nous appelle de Brest et qui nous parle de son projet d'immeuble de vivre ensemble. Et plus qu'un projet d'immeuble, c'est aussi un projet avec une réflexion très profonde, économique et anti-spéculative.
Oui.
Alors j'entends plus Tony dans le casque.
Oui, vous m'entendez ?
Oui.
Par rapport à cet aspect anti-spéculatif, ça c'était un point qui était très important, surtout pour un certain nombre de personnes. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait ces quatre aspects. Tout le monde n'avait pas la même motivation première pour s'y engager, mais en même temps, chacun, je crois, s'y est retrouvé dans ces quatre parties, à la fois collective, économique, écologique et surtout politique, dans ce sens anti-spéculatif. Et ça n'a pas été simple à trouver, mais voilà, je crois qu'on est arrivé à quelque chose, et avec des statuts un peu particuliers. En fait, pour expliquer ceci, l'immeuble appartient à une SCI. Et nous, habitants, on ne sommes ni propriétaires ni locataires de notre logement. On peut y résider à titre gratuit parce que nous avons avancé l'argent qui a permis la construction de cet immeuble, de ce bien, qui donc appartient à la SCI. Mais les porteurs de parts dans la SCI, en fait, c'est une association, l'association Écoumène, dont nous faisons partie également aussi. Mais c'est une association, loi 1901, à but donc non lucratif. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'association qui peut vendre le bien. Or, il se trouve que dans l'association, il y a des habitants, mais également des non-habitants. Des non-habitants, des gens qui n'ont absolument rien à gagner à ce que l'immeuble puisse prendre de la valeur ou en perdre. Et en fait, ça nous permet une garantie comme ça que le bien va garder la même valeur. C'est-à-dire qu'après, si des habitants décident que ça arrivera certainement un jour, de partir, eh bien, ces personnes-là récupéreront leur bille d'une certaine manière, mais n'en récupéreront pas plus, et ni moins. et surtout les personnes qui seront amenées à les remplacer, eh ben ils auront à donner le même nombre de billes, ni plus ni moins. Et ça nous, alors on verra sur l'avenir ce que ça donnera, mais voilà, le principe est fait que normalement les choses sont assez verrouillées pour pas que ça puisse en être autrement. Il faudrait que l'association décide de vendre le bien, mais personne pourrait en bénéficier du coup.
Donc c'est un projet collectif autour de ce projet. Puis tu évoquais l'idée que vous n'êtes pas tout seul dans le quartier, vous faites participer. Donc les gens de l'association, ça peut être des gens du quartier qui regardent un peu de manière globale comment marche votre projet.
Alors oui, après, alors ça vraiment sur le projet. Après nous, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez curieux. On est beaucoup sollicités pour savoir à la fois sur l'aspect construction, à la fois sur l'aspect collectif de prise de décision dans le projet, ou sur l'aspect ou des statuts que je viens d'expliquer. Alors ça dépasse, c'est le quartier, mais ça dépasse même le quartier. Après, dans le vraiment proprement dans le quartier, bah c'est des relations de voisinage que tout le monde peut avoir de toute façon. Et il y a cette, après, donc le rôle de l'association étant de garantir un peu la philosophie du projet, mais c'était quand même pas suffisant et on avait quand même envie, surtout avec les personnes non habitants et faisant partie de l'association, d'être dans autre chose, dans du partage de pratiques, de partage d'idées et tout ça. Et c'est là, ça se concrétise à travers ce local associatif qui est un espace pour tous les possibles, en fait, d'une certaine manière.
Donc c'est un projet où beaucoup de gens sont impliqués, mais alors est-ce que des gens peuvent venir vous rejoindre pour vous aider, surtout s'ils sont de Brest, et puis plus globalement, est-ce que tu recommanderais un projet pareil à n'importe qui?
Dans le cadre des activités de l'association, c'est évidemment ouvert à tous. C'est ouvert aussi à d'autres associations qui pourraient n'avoir rien à voir a priori avec nous ce qu'on fait et par rapport à de l'habitat. Et en même temps, ils peuvent être accueillis le mieux possible. Et sinon, après, par rapport à ce que nous on a fait, à montrer comment on a pu fonctionner et comment on fonctionne, bien évidemment que, enfin, nous sommes déjà un peu sollicités pour ça. Et puis, bien évidemment que on estime on est plutôt fier et content de cette scolarisation, on vit bien plutôt de là où on est, et on trouve donc plutôt convaincu que l'idée n'est pas mauvaise en tout cas, et évidemment qu'on trouve que les bonnes idées sont à partager, et on a un site internet, ecoumen.org, et ecoumen avec un K. Et on a mis nos, par exemple, les statuts. Nos statuts sont en ligne et n'importe qui. On invite n'importe qui à pouvoir les reprendre et puis les améliorer, parce qu'il y a forcément des choses à améliorer.
Enfin, vu d'ici et vu des vies parisiennes des membres du studio, votre projet d'immeuble est plutôt à faire rêver.
Rêver, puis en même temps, il est réel. On y habite là maintenant depuis 2 ans. C'est vrai que quand on cherchait le terrain, quand on a passé beaucoup de temps à réfléchir dessus, bon, on nous a beaucoup pris pour des babacool avec la maison bleue sur la colline, et des fois avec bienveillance, des fois avec un peu moins. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'utopique qui aujourd'hui existe, est bien réel et fonctionne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes qui ont beaucoup de revenus. Moi personnellement, je travaille au SMIC et voilà, on peut participer à ce type de projet.
C'est un beau projet et on te remercie pour ton intervention.
Ouais, alors, merci de votre accueil.
Et on enchaîne avec un sujet totalement différent, mais tout est lié quand on parle d'accords économiques internationaux, et notre spécialiste Gaël va nous parler du retour du CETA.
Eh oui. Aujourd'hui, grâce au Wallon, vous savez ce qu'est le CETA. C'est un accord commercial entre l'Union européenne et le Canada qui a été signé début novembre, avec quelques modifications à la marge pour lever le veto wallon. Alors dans le CETA, on trouve les ingrédients habituels des accords de libre-échange. Réduction des droits de douane, ouverture des marchés publics, ouverture des services à la concurrence. Et on connaît les conséquences de tout ça. Dans le domaine agricole, abaisser les tarifs douaniers, ça veut dire déstabiliser des filières qui sont déjà tendues. L'ouverture des marchés publics à la concurrence libre et non faussée, ça signifie qu'on s'interdit de privilégier l'emploi local ou les entreprises sociales et solidaires quand on fait des commandes publiques. Enfin, l'ouverture des services à la concurrence, ça menace directement les services publics. Alors la nouveauté du CETA par rapport au traité antérieur, c'est le contrôle supranational des réglementations. Autrefois, les différents commerciaux se réglaient entre États. Tu refuses mon bœuf aux hormones, j'interdis tes fromages puants. Avec le CETA, on a ce qu'on appelle un mécanisme de règlement des différends entre les États et les entreprises. Dès qu'une entreprise étrangère estime qu'une décision publique réduit les profits qu'elle espérait en s'installant, elle peut porter plainte auprès d'une instance d'arbitrage qui est composée d'avocats d'affaires, c'est-à-dire une justice privée. Et non seulement le CETA privatise la justice, mais il privatise aussi le législateur, puisqu'il programme ce qu'on appelle une harmonisation réglementaire entre les États, à laquelle participeraient les entreprises. Depuis 2016, la mobilisation contre le CETA a pris de l'ampleur, notamment parce qu'on se mobilise aussi contre le petit frère du CETA, le TAFTA, l'accord commercial avec les États-Unis. Et que les États-Unis, ça fait beaucoup plus peur que le Canada. La pétition anti-TAFTA et anti-CETA a recueilli 3 millions de signatures. Il y a eu des manifestations dans toute l'Europe à l'automne. Et en novembre, 2000 collectivités locales s'étaient déclarées hors TAFTA et hors CETA. Se déclarer hors CETA, ça signifie affirmer « le CETA ne s'appliquera pas chez moi ». Alors c'est complètement symbolique, mais en politique, le symbolique c'est important. Et la mobilisation n'est pas terminée, puisque une fois que le CETA est signé, il faut le ratifier. Et le CETA doit être ratifié par le Parlement européen le 2 février. On a déjà une grosse centaine d'eurodéputés qui se sont engagés à voter contre, mais il en faudrait 375 pour avoir la majorité. Alors pour les encourager, c'est très simple. Vous allez sur le site collectifstoptafta.org, tout attaché, où vous tapez Stop TAFTA dans un moteur de recherche, et vous allez tomber sur le site web. Vous cliquez sur Interpeller vos parlementaires. Ensuite, vous laissez votre code postal où vous laissez le site vous localiser. Et pour chaque député de votre région, ça va vous indiquer si il ou elle s'est engagé à voter contre le CETA. Et dans le cas contraire, il suffit de cliquer sur le nom du député pour lui demander de s'engager à voter contre. Et ça envoie automatiquement un mail. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Avec un mail d'insulte ou c'est poli quand même?
Non, un mail poli, vraiment gentiment. Donc il y a juste à cliquer et ça marche, j'ai essayé. Au départ, il y avait juste les députés du Front de Gauche qui s'étaient engagés à voter contre. Et là, après mon interpellation, eh bien, 5 députés PS que j'ai interpellés se sont engagés à voter contre le CETA. Édouard Martin, Isabelle Thomas, Guillaume Ballas, Gilles Pargneau et Emmanuel Morel. Personne de droite, enfin personne de la vraie droite et pas d'autres PS. Alors, vous pouvez aussi, en plus de faire ça, participer à un des 150 collectifs locaux Stop TAFTA. Vous pouvez encourager votre entreprise, votre ville, votre quartier, votre café préféré, bref, n'importe quel lieu que vous fréquentez à se déclarer zone hors TAFTA, hors CETA. Vous pouvez aussi participer à la journée de mobilisation qu'il y aura le 21 janvier. Et puis vous pouvez aller manifester à Bruxelles le 2 février. Il y aura un départ en bus organisé depuis Paris. Donc toutes les infos là-dessus, sur toutes ces actions possibles, vous les trouverez sur le site web collectifstoptafta.org.
Alors on enchaîne, hein, pas de transition après une conclusion aussi okay. Brillante. Et on écoute Magali qui va nous parler de revenu minimum.
Revenu universel. Universel.
Alors précisez-moi tout ça.
Une idée qui n'est pas vraiment nouvelle, hein, qu'on peut pas qualifier de nouvelle puisque ça fait des décennies que des chercheurs, des économistes étudient la question, mais qui vient de faire son apparition pour la première fois dans une campagne présidentielle en France. Alors le revenu universel, c'est une idée qui est soutenue à la fois par des personnalités socialistes, comme Benoît Hamon, qui l'a introduite hier dans le débat primaire de la gauche.
Il nous promet Hamon et merveilles.
Et qui est aussi par des personnalités de droite, libérales, comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Et également par des économistes de gauche comme de droite. Mais c'est aussi une idée qui est fortement combattue à gauche, mais aussi à droite. Bref, C'est un concept que d'aucuns s'empresseraient de qualifier de transpartisan. Sauf que, en réalité...
C'est un peu macroniste, quoi.
Sauf qu'en réalité... Oui, voilà, voilà, c'est macroniste. Sauf qu'en réalité, si le concept peut séduire à gauche comme à droite, c'est juste parce qu'il est flou. Et qu'on peut parler de choses bien différentes en utilisant ces mêmes termes de revenu universel. Alors l'idée de base est la suivante. C'est de verser à chaque individu un revenu de base, quels que soient ses revenus et sa situation professionnelle, sans contrepartie. Ça, c'est la coquille. Ensuite, chacun remplit cette coquille avec sa sauce, qu'elle soit progressiste ou libérale. Alors, dans la version progressiste, ça donne le montant de l'allocation universelle est plutôt élevé, autour de 1000 euros, donc proche du salaire minimum. C'est un montant qui permet à l'individu de couvrir ses besoins de base et de refuser un emploi. L'objectif, donc, dans la version progressive, c'est de libérer l'individu du travail et de lui permettre de vivre dignement, quelle que soit sa situation. Cette allocation peut lui permettre aussi, ou peut l'inciter à créer sa propre activité, peut lui permettre d'accorder plus de temps à des projets collectifs, créatifs, donc de favoriser l'entrepreneuriat et aussi les activités non marchandes. Dans cette version, toujours dite de gauche, le revenu universel se cumule avec le système de protection sociale actuel, sauf le RSA et les allocations familiales qui seraient fondues dans ce revenu. Et il serait versé à chaque individu de sa naissance jusqu'à sa mort. Enfin, il serait couplé à des mesures de réduction des inégalités, donc avec un système d'impôt sur le revenu qui soit vraiment progressif, et l'instauration, par exemple, d'un revenu maximal. Voilà pour la version de gauche. À l'autre extrémité, on a la version libérale. Donc là, le revenu universel est destiné à se substituer à l'ensemble du système de protection sociale et il consiste à verser à chacun un revenu d'un montant qui soit suffisamment faible pour qu'on ne puisse pas se passer d'un emploi, aux alentours plutôt de 400 euros. Donc au lieu d'augmenter le pouvoir de négociation des salariés face à l'emploi, il renforce celui des employeurs qui s'en donne à cœur joie dans ce cas pour réduire les salaires sous prétexte que, bien sûr, puisqu'il en a ce revenu, l'employeur peut verser un salaire inférieur. Ce qui équivaut à considérer le revenu universel comme une subvention étatique versée aux employeurs. Alors, aujourd'hui...
Tu es méchant, tout de suite.
Je suis réaliste. Pragmatique, je dirais. Les propositions actuellement mises sur la table dans le cadre de la campagne présidentielle, tout comme une expérimentation qui est actuellement lancée en Finlande, sont en réalité des versions plus ou moins intermédiaires de ces deux extrêmes, mais qui tendent quand même un petit peu plus vers la version libérale. Alors le projet finlandais...
On va l'avoir dans le fion.
C'est possible. Le projet finlandais, par exemple, il consiste à verser à 10 000 personnes, alors c'est une expérimentation, hein, donc 10 000 personnes, pendant deux ans, un revenu de 550 euros. Et l'objectif est très clairement affiché, c'est qu'ils se bougent pour trouver un emploi. Donc ça, c'est sans ambiguïté. En France, l'idée est portée depuis plusieurs années par une association qui s'appelle le Mouvement français pour le revenu de base et qui se revendique ni de droite ni de gauche, mais qui défend plutôt une vision progressiste du revenu universel, qui ne remettrait pas en cause les systèmes publics d'assurance sociale, mais qui permettrait d'étendre et d'améliorer la protection sociale tout en libérant l'individu du travail. Alors ce mouvement, tout comme la proposition, enfin Benoît Hamon, fondent leur raisonnement sur une idée qui ne fait pas du tout consensus, par contre, à gauche, qui est l'idée que le travail se raréfie sous l'effet de la révolution numérique et de la robotisation, et que ceci est une fatalité. Et cette idée heurte une certaine gauche, une autre gauche, communiste notamment, qui accorde, elle, beaucoup d'importance à cette valeur travail et qui pense l'épanouissement de l'homme au travers du travail. Donc je dirais que le revenu universel, finalement, a au moins... un avantage, c'est celui de soulever des questions qui dépassent bon nombre de nos hommes politiques, qui sont obligés de se confronter à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'appréhender, le long terme, et l'idée d'un projet de société. C'est aussi à ça que servent, à mon avis, les utopies. Alors celle-là, elle pourrait être terrible, elle pourrait être l'aboutissement presque d'une idéologie ultralibérale, ou alors elle pourrait être progressiste, de gauche. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Rien, peut-être, s'en méfier, sans doute. Ne pas laisser la droite s'en emparer, sans doute également. Et comme cette idée n'est de toute façon pas prête à voir le jour, et on peut peut-être tout simplement se détendre et se laisser à penser qu'un jour, peut-être, on pourra traiter Liliane Bettencourt d'assister. On aura au moins gagné ça.
Alors, on va passer une petite pause musicale improvisée, mais vu qu'on a appelé Brest tout à l'heure, on peut écouter le Bagad de Lambiwe, Alain Souchon.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Alors on peut célébrer une bonne nouvelle en parlant de revenus, c'est que l'Allemagne se dote à partir du 1er janvier d'un salaire minimum. Il n'en avait pas, et quand on parle de la grande réussite allemande et qu'on la met en modèle par rapport à tous nos problèmes économiques en France, c'est quand même assez impressionnant de se rappeler quelques chiffres à propos de l'Allemagne. En Allemagne, finalement, cette mesure du salaire minimum va quand même toucher près de 4 millions de salariés. Ça veut dire que en instaurant un salaire horaire minimum à 8,5 euros, pas trop loin du salaire minimum français, ça veut dire que 4 millions d'Allemands étaient en dessous de ce chiffre-là. Officiellement, 1,4 million de salariés sont payés moins de 5 euros brut de l'heure. 2,5 millions entre 5 et 8,5 euros. L'Allemagne sera donc grosso modo au niveau
français.
Oui, mais
Arbeit macht frei.
Je ne parle pas allemand, monsieur. Vous pouvez traduire ? Vous pouvez traduire ? Traduisez ?
C'est pour les initiés des camps de concentration.
Ok. On voit l'humour. Et les chiffres sont terrifiants, surtout pour les Allemandes. Alors, citons encore quelques chiffres sur la pauvreté. La moitié la plus pauvre de la société allemande possède 1% des richesses en Allemagne. C'est des jolis chiffres. Entre 2003 et 2010, le pouvoir d'achat avait baissé de 5,6%. Dont moins 12% pour les 40% des salariés les moins payés. Alors, il y a un petit peu d'explication historique sur ces années-là, avec les lois Hartz, qui ont remis en cause tout le fonctionnement du salariat allemand, avec des baisses et des créations d'emplois très mal payés, comme des emplois à 400 euros par mois. Là, quand on parlait tout à l'heure de 400 euros par mois pour un revenu universel, là, c'est contre un emploi, les jobs mal payés en Allemagne. Mais tout ça a permis, faut bien le dire, d'accroître fortement la production en Allemagne. Finalement, le dumping social a été progressif. Alors, le fonctionnement est complexe. C'est que les biens intermédiaires avec ce dumping ont pu continuer à être produits dans les pays de l'Est, proches de l'Allemagne, et pouvaient rentrer en Allemagne sans payer de taxes d'import-export, être assemblés principalement pour être d'ailleurs exportés vers les pays d'Europe. Mais cette mise en concurrence des travailleurs pauvres aux portes de l'Allemagne et des travailleurs allemands ont permis encore d'augmenter la rentabilité des entreprises.
Couplé avec le fait que l'Allemagne a siphonné ses partenaires à tout va en Europe.
Et tous ces chiffres sur la pauvreté en Allemagne, c'est des... C'est une réalité tout à fait forte. Le taux de pauvreté est passé de 12 à 15% au-dessus de la France. Alors la raison forte de ça, c'est que le temps partiel est énorme. Les gens travaillent peu d'heures finalement, et principalement d'ailleurs les Allemandes, avec des temps très très partiels. C'est des chiffres. Alors, faut aussi penser que l'Allemagne baisse en population. Depuis l'an 2000, elle a perdu 500 000 habitants, tandis que la France en a gagné 5 millions. Donc, on n'est pas sur les mêmes bases. Et un dernier chiffre avant de conclure, qui est assez impressionnant par rapport à ça, c'est la productivité. Alors, comment mesurer la productivité? Un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, c'est de prendre le PIB, c'est-à-dire la mesure de tout ce qui est produit en France, divisé par le nombre d'heures travaillées. Et il y a trois pays qui dominent la planète sur cette donnée. C'est les États-Unis, qui ont toujours été avec la meilleure productivité. Et puis, progressivement, dans l'après-guerre de Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne les ont rattrapés. Or, nous, avec beaucoup plus d'heures de travail que les Allemands. Finalement, les Allemands ont tellement réparti avec des gens mal payés ou des gens qui ne travaillent plus parce que des femmes au foyer, par exemple. Finalement, la productivité française est vraiment énorme par rapport à ce que peut faire l'Allemagne. Donc quand on met tous ces chiffres bout à bout, on peut se demander qui a fait les bons choix ces dernières années. Voilà, ce qui nous permet de passer à l'agenda. Et Gaël peut commencer.
Oui, par samedi 14 janvier, demain. Travail gratuit, revenu universel, salaire à vie. De quoi demain sera-t-il fait ? C'est un débat organisé par la Société des Amis de l'Humanité avec Maud Simonet, sociologue, chargée de recherche au CNRS, et Bernard Friot, sociologue et économiste. Ce sera animé par Guillaume Duval de la revue Alternative Economics. C'est samedi 14 à 14h30 à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris.
Dans la rue, on meurt. Un sans-abri a 15 ans d'espérance de vie. Il décède en moyenne à 45 ans. Donc si vous voulez lutter contre cet état et rejoindre la manifestation pour les sans-abri qui est organisée le 14 janvier 2017, donc demain à 15h à Paris, rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 15h donc.
Alors, projection débat du film La Sociale de Gilles Perret, 2016. Sur le site Paris Démosphère, vous avez tous les renseignements. Ça aura lieu le samedi 14 janvier à 20h30 à Bonneuil-sur-Marne et le 20 janvier, autre séance à 20h30 à la Courneuve.
Et alors, dimanche 25 janvier à 9h du matin, il faut se lever tôt, à la Confédération Paysanne au 104 rue Robespierre à Bagnolet, il y a une journée de recherche-action pour une révolution citoyenne avec la coopérative citoyenne et pour essayer de remobiliser les troupes.
Et c'est bien dimanche 15 janvier. Le dimanche 15 janvier, en concurrence, vous pouvez aller faire l'atelier EducPop, quelle société veut-on ? C'est sur les Nuits Debout qui se poursuivent deux journées, Debout Éducation Populaire.
Mardi 17, à la Maison des Métallos, toujours le Cinécroc d'Attaque, avec un film donc de Mourad Lafitte qui revient sur la lutte des ouvriers de l'usine Goodyear Amiens Nord pour défendre leurs emplois. Et la projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur. C'est donc le mardi 17 janvier à 19h30 à la Maison des Métallos.
Mardi 17 janvier à 19h45, vous pouvez également assister à une conférence débat intitulée « Par ici, la sortie, cette crise qui n'en finit pas ». Avec Dominique Plion, le porte-parole d'Attaque. Et ça se passera au foyer de Grenelle, 17 rue de Lavre à Paris.
Alors, le mercredi 18 janvier, espace Saint-Michel à Paris. Donc, projection débat, La Cigale, le Corbeau et les Poulets, film d'Olivier Azam. Histoire invraisemblable d'une farce juridique qui aura inquiété jusqu'à l'Élysée et fait débouler l'élite de la police antiterroriste dans un petit village de l'Hérault. Ça vous rappellera bien sûr quelque chose.
Et alors, mercredi 18 janvier 2017, n'est-ce pas ? Maison des associations du 13e, travaillez moins, mais travaillez tous et mieux. Et donc c'est avec Anne Hédoux, maîtresse de conférence au CNAM, sur la question du chômage.
Ce qui termine l'agenda, alors on remercie tous les intervenants, Tony du projet Kounem de Brest au téléphone, et puis Jean-Marc, Alex, Magali, Gaël au chronique, Jean-Yves qui tenait les commandes avec aidé par Ludo, et nous écoutons pour terminer en rapport avec ce projet d'immeuble, bah évidemment mon HLM, mais pas chanté par Renaud, chanté par Arthur H.
Dans mon HLM, y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe une nuit dans les caves avec son Beretta, traque le môme qui chouave, le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de pincu. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré.